Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons aujourd'hui la suite de notre réflexion sur le langage symbolique que nous avons amorcé la semaine dernière. Et nous allons analyser le phénomène d'intériorisation dans la façon de lire les textes. Prenons par exemple la parabole évangélique dite du figuier maudit. Elle se trouve en Marc, dans l'évangile selon Marc, chapitre 11, versets 12 à 14. Je lis. « Et le lendemain, tandis qu'il sortait de Béthanie, il eut faim. » Il s'agit de Jésus. Hein. « Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais y étant allé, il ne trouvera rien que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. Et prenant la parole, il lui dit, « Que jamais plus désormais de toi personne ne mange de fruits. » Et ses disciples entendaient. Alors, il est évident que cette histoire est complètement illogique. Si ce n'est pas la saison des figues, il est absurde de s'attendre à trouver des figues sur le figuier. Et il est absurde en plus de condamner ce figuier sous prétexte qu'il ne porte pas de fruits. Et non seulement cette histoire est absurde, mais elle est parfaitement injuste et inadmissible. Ou alors, on pourrait dire que le texte est corrompu et que le passage « Ce n'était pas la saison des figues » a été rajouté après coup, au mépris de toute logique. Voilà ce que dirait un esprit voltairien ou positiviste. Mais la question à se poser est la suivante. Et si le texte relevait d'une autre logique, précisément d'une logique symbolique? Le figuier pourrait symboliser tous ceux qui s'abritent derrière une excuse, qu'elle soit administrative ou d'une autre nature, pour fuir leur devoir présent, pour fuir leur responsabilité. Ce n'est pas le moment, ce n'est plus le moment, je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps, je suis trop occupé, le bureau est fermé maintenant, revenez plus tard, etc., etc. Or, si quelqu'un est en peine ou nous demande de l'aide, nous devons accéder tout de suite à cette demande, s'enfuir en disant que ce n'est pas la saison, hein, sans s'éloigner, hein, s'enfuir, hein, il ne faut pas fuir. Hein. Et Alain parle de la même façon dans une jolie formule des figuiers d'administration. Pensons par exemple à cette obéissance passive aux règlements, aux supérieurs, derrière lesquels s'abritent les exécutants, comme si leur responsabilité en était atténuée. Mais non, leur responsabilité est essentielle. Le commandant d'Auschwitz, par exemple, n'est pas moins coupable parce qu'il exécutait les ordres. C'était la façon de se défendre qu'a eu Eichmann dans son procès à Jérusalem. Hein. Il a dit « j'étais un simple exécutant ». Mais enfin, exactement comme pour le témoin inactif d'un crime, hein, la responsabilité est bien là. Hein. Celui qui laisse faire est tout aussi fautif que celui qui fait, et peut-être même plus que celui qui fait. Car celui qui fait, comme le disait Charles Péguy, il a au moins le courage de faire. Tandis que pour celui qui laisse faire, il y a la lâcheté en plus, vous voyez. On dit souvent que le silence des pantoufles est plus effrayant qu'un bruit de bottes. Hein. Donc il y a quelque chose de pire que l'âme des grands criminels, c'est le silence des gens de bien, vous voyez, de ceux qui laissent faire. Hein. Lorsque quelqu'un est attaqué dans la rue, je dois lui porter secours, hein, sinon il y a non-assistance à personne en danger, hein, sinon je serai puni. Hein. Et le figuier incarne la même attitude, une attitude dans la vie qui est faite de fuite ou de défection. Elle est proche de celle du pharisien, et peu importe qui étaient historiquement les pharisiens, ils peuvent intéresser l'historien positiviste, les pharisiens, mais le pharisaïsme intéresse tout homme, au moins dans la tradition chrétienne, bien entendu. Hein. Je sais très bien que les Juifs aujourd'hui se disent les descendants des anciens pharisiens. Mais je prends pharisaïsme, comme on le voit dans le dictionnaire, hein. Il est de tout temps et de tout lieu, le pharisien ainsi conçu. L'important est ce qu'incarne le sépulcre blanchi dont parlent les évangiles. Hein. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrite, vous êtes des sépulcres blanchis. Alors il faut donc intérioriser le phénomène, l'interpréter sur le plan du sujet, comme le figuier et comme les personnages de beaucoup de récits. Hein. Sinon, on n'y voit qu'absurdité et trop de logique nous aveugle. Alors il faudrait faire ici une réflexion sur la différence entre la lettre et l'esprit. Hein. Je dirais que les textes symboliques sont des textes où il faut dépasser la lettre des choses. Ils sont ceux où derrière l'explicite ou le littéral, on distingue autre chose que ce qui est expressément dit. Ces textes sont allégoriques, c'est-à-dire qu'ils disent autre chose. Hein. En grec, allo-agoréine, dire autre chose. Ils disent autre chose que ce qu'ils disent. Ou bien on pourrait dire qu'autre chose est réunie dans le texte à ce qui est dit. Et réunir se dit en grec « symbalein », hein. Donc le texte est symbole, allégorie et symbole. Hein. Alors maintenant, je prévois votre objection. On pourrait dire « pourquoi est-ce qu'on ne dit pas les choses directement ?» Ça serait plus simple. Pourtant, hein, ces choses essentielles ne sont pas dites directement. Alors peut-être c'est pour les faire paraître... plus désirable à l'esprit, en donnant à l'esprit la possibilité de les deviner. Alors, vous savez que l'endroit le plus érotique d'un corps est celui où le vêtement bâille, vous voyez. Hein ? Ce qu'on devine est toujours plus intéressant que ce que l'on voit. Par exemple, l'ombre du criminel qui se découpe sur la muraille est toujours plus effrayante que ne l'est sa figure patibulaire. Hein. Le grincement de porte que l'on entend aussi, vous voyez. Hein. Il y a une erreur là-dessus, des films d'épouvante. J'aime beaucoup, moi, les films d'épouvante, mais j'aime bien les films d'épouvante où l'on suggère. Et je n'aime pas ceux où l'on voit tout. Par exemple, le premier film sur les dents de la mer, le premier film, pouvait faire peur parce que le requin était beaucoup plus deviné que montré. Mais ultérieurement, après, on a eu un requin en baudruche et cela faisait plutôt rire. Hein. Donc, le faux jour a plus de mystère que la clarté. Voyez le livre de Tanizaki qui s'appelle « Éloge de l'ombre ». Il parle justement des manches du kimono hein, qui suggère justement le poignet, l'avant-bras justement de celle qui le porte hein, et cela fait davantage rêver hein. Je reprends mon exemple justement sur le vêtement qui bâille, le temps d'un sein nu entre deux chemises, comme dit Paul Valéry hein. Alors l'essentiel, vous savez dans les choses les plus importantes hein, ne sont jamais dites de façon claire et donc il ne faut pas fixer jusqu'à l'obnubilation, hein, c'est-à-dire le fait de se laisser submerger par un nuage qui obscurcit tout. Hein. Il ne faut pas fixer la lettre seule des choses, qu'il s'agisse d'un usage ou d'une coutume, ou bien d'une construction imaginaire, ou bien d'un texte symbolique. En effet, ce qui est important n'est pas ce qui est explicitement signifié. Un proverbe oriental nous dit « quand on montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt hein. ». Il faut voir la direction qui est indiquée, et non pas le bout du doigt. Alors, ceux qui sont frappés d'asymbolie, c'est-à-dire l'incapacité de voir les symboles, qu'il s'agisse des voltairiens ou des positivistes, ne voient que du littéral. Ils cherchent des faits là où il y a seulement des directions. Or, une fidélité littérale peut être une infidélité spirituelle et inversement. pour reprendre une expression de Jean Kelevitch qui peut faire rire, hein, ceux qui ne connaissent pas le grec, une infidélité grammatique peut être une fidélité pneumatique. Alors ça veut dire quoi ? Grammatique, ça veut dire qu'il y a rapport à la lettre, et pneumatique, il y a rapport au pneuma, en grec c'est ce mot qui veut dire l'esprit, vous voyez ? Tous les traducteurs savent bien que pour rendre une expression d'une langue dans l'autre, il faut très rarement traduire littéralement, mais il faut chercher des équivalences, quitte à être infidèle à la lettre même du texte. L'essentiel, c'est la direction. Et cela vaut aussi pour la morale, où la fidélité à la lettre des commandements est loin d'être l'essentiel. La vraie morale, disait Pascal, se moque de la morale. Par exemple, être fidèle à sa femme, je crois que je l'ai dit dans une émission précédente, c'est pas simplement ne pas lui être infidèle, surtout si on le lui reprocher, si on le lui reproche, si vous voulez, à chaque moment. Hein. Non, ce qui compte, c'est s'intéresser à quelqu'un pour le rendre heureux ou la rendre heureuse, vous voyez. Hein. Donc, voilà, le grammatique, la lettre, hein, n'est rien à côté du pneumatique qui est l'esprit. Hein. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit hein, dans l'Épître aux Corinthiens, hein, la lettre tue et l'esprit vivifie. Hein. L'esprit vivifie dans le credo, hein, il est dit dans le credo de Nicée que l'esprit est celui qui donne vie. Zoopoion pneuma, agion pneuma, le Saint-Esprit, il est zoopoion, il donne vie. Dans la traduction latine, vous avez vivificans, hein, et in spiritum sanctum, vivificantem, hein, qui vivi, qui, voilà, l'esprit nous donne vie. Et toute réflexion sur le langage des productions culturelles, comme celle que nous faisons dans cette série d'émissions, doit s'inspirer de cette axiome, la lettre tue et l'esprit vivifie, a commencé par l'herméneutique. L'herméneutique, herméneuen, c'est interprété. L'herméneutique, c'est l'interprétation des textes. Il faut commencer par éviter la fausse clarté de l'interprétation littérale. Alors, je vais prendre des exemples pour illustrer cette différence entre la lettre et l'esprit dans la lecture des textes. Alors, je vais prendre par exemple la Genèse. Genèse, chapitre 5, verset 1. Hein, on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, vous voyez. Alors, interprété littéralement, dans un sens grossièrement physique, cela peut nous amener à nous dire que cela ne nous donne pas une haute idée du modèle, vous voyez. Et avec guère plus de subtilité, à la façon voltairienne, nous pouvons dire « l'homme le lui a bien rendu ». Mais que nous dit cette formule, spirituellement ou symboliquement ? Elle nous dit que l'homme a en lui un instinct qui l'élève vers un idéal, et cet idéal est constitutif de sa nature et le définit tout entier. En sorte que si Dieu meurt, je pense au cri de Nietzsche, Dieu est mort, si disparaît dans l'homme la transcendance, l'homme meurt aussi. N'oubliez pas que le Dieu est mort de Nietzsche n'est pas un cri de triomphe, mais un cri d'angoisse. Cela veut dire, vous Européens, vous ne croyez plus à rien, vous êtes nihilistes. Et d'ailleurs, le nihilisme européen est le titre projeté d'un livre de Nietzsche lui-même, vous voyez, hein. Donc, l'homme, il est à la fois théotrope et théomorphe. Théomorphe, c'est-à-dire qu'il a la forme, une forme divine, hein, créée à l'image de Dieu, et théotrope, c'est-à-dire qu'il est orienté, trépigne, tourné, hein, il est orienté vers Dieu. Il est comme aimanté, dirigé vers une aspiration, un idéal de dépassement. Pascal disait très bien que l'homme passe infiniment l'homme. Alors on peut donc interpréter cette expression « Dieu a fait l'homme à son image » en termes non pas théologiques, mais simplement psychologiques. C'est la position que j'adopte personnellement. Autre exemple, la Genèse rapporte deux paroles de Dieu qui sont des questions. D'abord à Adam, une question posée à Adam. Après que Adam ait goûté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien Dieu dit à Adam, « Adam, où es-tu ?» Genèse 3, 9. Deuxième parole, sous forme de question, à Caïn. Après que Caïn a tué son frère Abel, eh bien Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Voyez, Genèse 4, 9. Hein. Alors, littéralement, ces phrases sont totalement absurdes, puisque Dieu est omniscient, donc il sait tout ce qui s'est passé. À quoi bon poser ces questions? À quoi bon le demander? Adam, où es-tu? Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Mais ces questions, en réalité, sont symboliques. Ce sont des questions à arrière-plan. Elles sont des mises en situation de responsabilité, des tentatives d'éclaircissement de la situation. Alors, la phrase « Adam, où es-tu » signifie non pas « Je ne sais pas où tu es, dis-moi où tu es » puisque Dieu le sait, ce qui est absurde. Hein. Mais ça signifie « Adam, dis-moi ce qui se passe, dis-moi ce qui t'arrive, dis-moi quel est ton problème » comme on dit aujourd'hui. Bref, ça pourrait signifier « Adam, où en es-tu ? » Où en es-tu dans ta situation actuelle hein? Alors Adam répond qu'il s'est découvert tout nu et qu'il a eu peur et qu'il s'est caché. S'il n'avait pas eu peur, il n'y aurait pas eu de faute. Hein? Et Barbe Bleue, dans le conte de Perrault, que tout le monde connaît, fait à sa femme qui lui a désobéi la même question à propos de la clé que celle de Dieu à Adam. « Qu'avez-vous fait de la clé ?» Alors, vous voyez à propos de ces textes une sorte d'épaisseur glauque. Hein, ces textes ne doivent pas être abordés en termes strictement logiques ou de cohérence psychologique habituelle. Il s'agit de voir symboliquement quelle sera la réaction de l'interrogé. Barbe Bleue sait très bien ce qu'a fait sa femme, déjà. C'est l'image de Dieu. C'est une réécriture de l'épisode biblique, la Barbe Bleue de Charles Perrault. Alors, pour Caïn, la réponse est la suivante. « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Alors ici, Caïn élude sa responsabilité. Et sa faute, c'est sûrement moins d'avoir tué son frère, parce qu'il avait toutes les raisons de le faire, étant donné l'injustice que Dieu lui avait faite, que d'avoir menti à Dieu en ne le reconnaissant pas. Hein. Si Caïn avait dit « Ben voilà, j'ai tué mon frère, tu m'as fait une injustice, Dieu, peut-être que la faute n'aurait pas existé, ou disons à un moindre degré. » Alors, si on prend maintenant la version rationnelle et voltairienne de ce texte, je prends celle de Cavanna dans ses écritures qui sont iconoclastes. Il ne voit pas du tout la symbolique du texte, hein, et cela limite considérablement à la base sa lecture démystificatrice, qui pourtant est par endroits fort brillante. « Adam, où es-tu ?» devient alors chez Cavanna « Adam, coucou, où es-tu » ce qui est amusant, mais qui n'est pas profond. Hein. Et le texte est totalement aplati, il est amputé d'une dimension essentielle, sa dimension symbolique. Le texte prend le parti de Caïn, hein. Cavanna prend le parti de Caïn. C'est une position pourtant tout à fait tenable, qui fait suite par exemple au caïnisme du XIXe siècle, voyez par exemple Baudelaire ou le comte de Lille, ou déjà Vigny qui avait défendu Caïn justement face à l'injustice que Dieu lui avait faite. Eh bien Cavanna ne relève pas la réponse mensongère, l'illusion de responsabilité de Caïn à Dieu. Pour Cavanna, le texte ne bâille pas, ne tremble pas. Or, les textes symboliques sont flous et ils sont tremblés. Il faut que leur lecture restitue ce flou et ce tremblé. Il faut que la lecture vibre à l'unisson de cette obscurité. Hein. Il est toujours facile de démolir un texte sans voir l'arrière-plan de ce texte. Par exemple, la parabole du semeur dans l'Évangile. Le semeur sort de chez lui pour semer, et le semeur parfois sème dans les orties ou les ronces. Eh bien, littéralement, l'auditeur de cette parabole pourrait dire que ce comportement conduit à penser qu'il n'est pas un bon semeur. Hein. Pourquoi va-t-il semer ou sur les cailloux du chemin ou dans les ronces? Mais en vérité, réalité, le sens, il est autre, il est symbolique. Il faut donc examiner les textes dans leur profondeur et leur épaisseur. Et nouveau point, je dirais qu'il faut les examiner impartialement. Parce que ces textes nous arrivent sédimentés, ils sont recouverts par les exégèses et les interprétations antérieures qui, souvent, en voulant les expliquer, les simplifient. Et il faut, derrière les versions de catéchisme ou d'apologie ou d'édification, retrouver le flou et la complexité du langage original. La densité humaine et l'épaisseur symbolique y gagneront. Et la même chose se produit lorsqu'un usage ou une coutume se fige, lorsque la pratique machinale les aplatit. Il ne reste plus grand-chose de la signification d'origine, qui était une signification complexe. Si les textes, les images, les comportements sont à restaurer, comme je le pense, pour passer de la Kultur, c'est-à-dire du respect aveugle de l'héritage, à la Bildung, c'est-à-dire la formation, justement, par examen personnel, eh bien, je dirais que texte, image, comportement sont à complexifier. Nous devons retrouver leur épaisseur. Alors, je prends l'exemple, les exemples que j'ai cités. Il court sur la désobéissance d'Adam et sur le crime de Caïn, des histoires qui sont devenues canoniques. L'histoire dit qu'Adam et Ève, ayant désobéi à Dieu, ils ont été punis pour cela. Et que Caïn, à qui on prête très souvent d'emblée de mauvaises pensées, Caïn qui a par jalousie tué son frère, a été puni pour la noirceur de ses desseins, de ses buts et l'injustifiable de son crime. Mais en fait, les textes disent autre chose. Il faut, et ça c'est une règle de méthode essentielle, toujours jouer le texte contre l'histoire. Prenons le cas d'Adam et Ève. L'arbre d'Éden, par exemple, d'abord ce n'est pas un pommier, le fruit n'est pas une pomme, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le pommier il vient d'une erreur sur le mot latin malum. Le mal à malum a une brève sur le A et il existe un malum avec une longue sur le A, malum, qui calque le grec mélos, qui veut dire pommier, vous voyez. L'erreur vient de là, on n'a plus distingué les quantités vocaliques du A dans malum, et on a assimilé l'arbre d'Éden à un pommier. Or, il est peu probable, là nous ne sommes pas en Normandie, il n'y a pas des pommiers partout. Il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quant au péché, vous le voyez, je viens de le dire, ce n'est pas le péché de chair, c'est pas le fait de faire l'amour. Donc l'Église a culpabilisé la sexualité depuis 20 siècles sur un contresens. Il suffit de lire La faute de l'abbé Mouret de Zola pour voir comment encore à la fin du siècle dernier, on comprenait le symbolisme entre guillemets de la faute originelle. On le comprenait de façon très aplatie. Et encore chez nous, croquer la pomme veut dire encore aujourd'hui faire l'amour. Or, il faut relire le texte de très près. Alors, qu'est-ce qu'il dit le texte ? Adam a peur. A peur parce qu'il se découvre nu. Il se voit d'abord nu et puis il a peur. Et cette vision, elle est comportementaliste ou behavioriste. Elle est archaïque et très moderne à la fois. Le comportementalisme nous fait dire « je vois l'ours, je tremble, j'ai peur ». Plutôt que « je vois l'ours, j'ai peur, je tremble », vous voyez. Donc Adam se reconnaît justement habité par la peur à partir de son tremblement. La causalité dans cette histoire est inversée par rapport à la causalité logique courante et les schémas explicatifs ordinaires par l'introspection, l'auto-analyse psychologique sont invalidés. Il se découvre nu. La nudité signifie la vulnérabilité, l'abandon. Et les bourreaux du monde entier font déshabiller leurs victimes pour les humilier, vous voyez. Donc le texte tout entier nous dit que le malheur précède la culpabilité. Il ne s'agit pas d'une faute, mais plutôt du sentiment d'une humiliation, d'une déchéance. Et si Adam avait assumé sa faute, faute entre guillemets, sans en souffrir, sans la rejeter sur Ève, qui accuse à son tour le serpent, il n'y avait pas de faute. En termes psychologiques, strictement, le sens, c'est que quiconque s'ouvre à la connaissance commence à s'ouvrir à la souffrance. Il est désormais chassé du paradis, le paradis de l'ignorance ou de l'enfance, qui est l'époque de la préconscience, ce qu'il y a avant la conscience. Le fameux péché, entre guillemets toujours, c'est l'angoisse qui dévore l'homme quand il devient conscient et qui désormais va l'accompagner pendant toute sa vie. L'enfant, par exemple, ne sait pas ce que c'est que mourir. Quand il joue, il fait le mort, et puis il se relève. Un jour, il apprend ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que mourir ? C'est prendre un aller simple, sans retour. Hein, voilà. Et dès lors, il est beaucoup plus près, cet enfant, du vieillard qu'il sera des dizaines et des dizaines d'années plus tard, que de l'être qu'il était l'instant d'avant. C'est irréversible. Il est désormais chassé de l'Éden, de l'ignorance. Mais on a simplifié tout cela en parlant d'une interdiction qui, une fois enfreinte, engendrait un châtiment. C'est une vision très naïve, la vision désobéissance, puis peine encourue, qui met de l'ordre, finalement, dans les choses. Mais les choses sont en réalité beaucoup plus complexes et beaucoup plus tragiques. Hein. Et si on la voit comme j'essaie de la faire voir, l'histoire va se retourner contre Dieu lui-même. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin comme une tentation. Comment jugerait-on, par exemple, logiquement, un père qui ramènerait chez lui un train électrique qu'il donnerait à son fils ? Il le lui installe et puis il se cache derrière la porte pour voir si son fils joue en son absence au train électrique. S'il le surprend en train de jouer au train électrique, il le lui confisque. Hein ? Vous savez, quand un problème se présente avec le fonctionnement, comme on dit, de quelqu'un, on n'est pas plus avancé de le punir et de le maudire, hein, vous voyez, hein ? Prenons un autre exemple. Supposons une automobile qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'on dirait de l'automobiliste qui s'emporterait contre l'automobile, qui lui dirait « tu es une méchante automobile, plus jamais je ne te donnerai d'essence, etc. » Il faut au contraire ouvrir le capot et chercher d'où vient la panne, vous voyez ? Donc, maudire quelqu'un qui a mal agi ou qui a mal fonctionné, cela n'avance à rien. Il faut se dire pourquoi ça n'a pas marché. Donc, dans l'histoire d'Adam, ce n'est pas de la culpabilité qu'il est question. Il est question du malheur de l'homme qui est devenu lucide et conscient. Symboliquement, l'histoire prend acte de ce malheur qui suit la connaissance, la conscience. La fameuse malédiction, elle est bien secondaire. Et le sens est le même dans l'histoire grecque de Psyché, dans la mythologie grecque. Hein. Psyché est mariée à Cupidon, hein, qui est un très beau jeune homme. Mais elle est mariée sous réserve que jamais elle ne voit Cupidon. Alors là, elle est heureuse. Mais un jour, à l'instigation de sa sœur, qui lui dit que son mari peut être très laid, eh bien, Psyché a peur que son époux soit laid ou monstrueux. Alors elle le décide d'aller le voir. Elle le surprend dans son sommeil, hein. Elle a une bougie à la main et puis un peu de cire chaude tombe sur la cuisse de Cupidon qui se réveille justement et qui chasse Psyché. « Tu m'as vu, lui dit-il, tu n'es plus ma femme, je te répudie. » Alors elle a bien vu que Cupidon était très beau, hein, mais alors elle connaît le malheur de la répudiation, elle devient malheureuse. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire cette histoire ? L'histoire veut dire qu'on perd son bonheur quand on veut le connaître, quand on veut le voir. Il est seulement possible de le vivre inconsciemment. Et psyché en grec veut dire âme. Hein. Et les chrétiens ont vu dans cette histoire de psyché une allégorie de l'âme humaine chassée par Dieu après la faute et implorant son pardon. Mais le sens moins linéaire et littéral, le sens psychologique ou symbolique est bien plus intéressant à mon avis. Hein. Nous sommes tous dans la situation de psyché quand nous tuons notre bonheur pour avoir désiré le connaître, vous voyez. quand on est heureux, il faudrait se contenter d'être heureux. Chercher le pourquoi, est-ce qu'on a raison d'être heureux, pourquoi est-ce que l'autre est aussi beau, n'est pas laid, est-ce qu'il est beau, etc. Tout ça, c'est détruire son bonheur. Hein. Le sens de cette histoire de Psyché, comme celle d'Adam, est loin de s'épuiser dans l'idée de transgression d'une interdiction et dans l'idée d'un châtiment corrélatif. Voilà, eh bien, je m'arrête ici, pour cette émission-là. La prochaine émission, nous verrons comment on a voulu rationaliser aussi l'histoire de Caïn, dont je réserve le suspense. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer cette enquête sur le langage symbolique. Je rappelle que je m'inspire dans cette série d'émissions d'un livre qui s'appelle « Comprendre la culture générale » qui est paru chez Ellipse il y a une vingtaine d'années et qui est toujours disponible en librairie. Rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.